La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne.
Alors nous étions en train d'évoquer cette conversation entre la femme, Ève, et le serpent. Serpent menteur, mais qui pourtant lui a fait croire qu'il disait la vérité. Il leur a dit « Vous pouvez manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mourrez pas. » Et donc, Ève va voir Adam et elle lui parle. Et Adam écoute la voix de sa femme. Et le texte d'ajouter, elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Oublieux du commandement divin, dont il était pourtant l'unique protagoniste et le dépositaire responsable.
Eh oui, Étienne, le pire vient d'arriver. Ce drame s'appelle le péché originel, et il est tous les jours à l'intérieur de nous, ce mensonge. S'il y avait eu un clocher au jardin d'Éden, on aurait entendu sonner la 9e heure. 3 heures de l'après-midi, l'heure de la où le Christ remet son esprit au Père, l'heure des ténèbres de la croix. L'homme vient de rompre unilatéralement l'alliance avec Dieu. Et la Bible écrit « Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus à la ressemblance du serpent qui est nu ».
Qui sont devenus fils du serpent.
Ils sont devenus
fils du diable.
Désormais, ils lui sont soumis parce qu'ils lui appartiennent. Cueillant alors des feuilles de figuier, ils s'en font des pagnes pour se cacher l'un devant l'autre. C'est-à-dire que la honte a remplacé l'amoureuse harmonie des commencements, la rivalité et la jalousie là où régnait la concorde.
Alors toutefois, Jocelyne, de quelle nudité s'agit-il ? Parce que n'était-il pas nu auparavant,
mais
sans en éprouver de honte ? Ils étaient d'ailleurs émerveillés de faire une seule chair, comme le Créateur en avait d'ailleurs disposé pour eux. De fait, on l'oublie trop souvent, mais c'est Dieu qui avait prévu de toute éternité cette nudité, parce qu'il est, lui, l'auteur de la sexualité et du plaisir. C'est
oui,
lui qui met en face l'homme et la femme. Donc s'il avait voulu, on aurait pu se reproduire comme des clones à la manière des cellules qui se dupliquent à l'infini. Non, non, il a prévu la nudité, mais de cette nouvelle nudité, j'allais dire la nudité du serpent, eh bien c'est comme si elle résultait de la mort de l'être en eux qu'ils expérimentent. Pourquoi ? Parce que Dieu s'est retiré d'eux, il a respecté leur liberté.
Eh oui, en donnant foi aux allégations du serpent, Adam et Ève ont congédié Dieu et Dieu s'est retiré. Eh bien évidemment, parce qu'il ne peut rien contre le don de la liberté qu'il nous a fait. La lumière, or en hébreu, qui irradiait leur être, s'est éteinte comme s'ils avaient débranché et les voilà ternes, nus. À l'instar du serpent, dont la parole fallacieuse a pris racine en eux. Dieu est tout à fait navré de ce qui vient de s'arriver, c'est une catastrophe. Mais il reprend vite l'initiative et il rentre dans le jardin. Il appelle Adam et il lui dit « Où es-tu ?» Adam s'est caché car il a peur, nous dit. Il a peur, pourquoi ? Parce qu'il est nu. Alors Dieu lui dit « Mais qui t'a appris que tu étais nu ?» Et dans son travail d'accoucheur, de la vérité, dans cet effort de maïeutique, d'accoucheur vraiment destiné à ouvrir à Adam un chemin de retour, malgré d'ailleurs l'insolence de sa réponse. Parce que, à la question posée par Dieu, qui t'a appris ? Il répond, c'est la femme que tu as mise, toi, Dieu, auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé. En conséquence, en sous-texte, c'est toi qui es fautif. Peu lui importe que la colère divine s'abatte sur la chair de sa chair, pour laquelle il s'était enthousiasmé au premier regard. Ce qui compte pour lui désormais, c'est de sauver sa peau.
C'est dire que l'égoïsme est entré dans le cœur d'Adam. Désormais, il est condamné, tout comme Ève, à s'aimer lui-même dès qu'il est confronté à l'irréductible altérité d'autrui. Et saint Paul écrit d'ailleurs à ce sujet « Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort de mon être ? Mais grâce soit au Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Ainsi, désirer, aimer, pour accomplir notre vocation d'être à l'image de Dieu, c'est possible. Mais le problème, c'est que nous constatons que nous n'y parvenons pas. parce qu'une autre parole, celle du serpent, celle du nu, du mauvais, vivace en nous depuis la faute originelle, nous manipule en flattant notre ego pour nous dresser les uns contre les autres. Et ça, c'est le constat de notre malheur quotidien.
Voilà. Toutefois, Dieu va reprendre la main afin de contrecarrer les menées du tentateur qu'il maudit, lui. C'est le seul qui va être maudit dans cette histoire, avec le sol d'ailleurs, qui condamne, et il va le condamner à marcher sur son ventre et à manger de la poussière tous les jours de sa vie. Même s'il exerce la justice en rendant à chaque protagoniste selon sa responsabilité, Dieu, eu égard à sa miséricorde, promet néanmoins à la femme une descendance qui écrasera la tête du serpent. Cependant, il y a une note mineure, il dit « Celui-ci l'atteindra au talon ». C'est une prophétie de la passion et de la croix, car c'est avec le talon que nous attaquons la terre en marchant, et c'est par lui que nous sommes en relation avec l'humus dont nous sommes pétris. Nous sommes pétris de terre, de poussière.
Alors, est-ce qu'il y a un impact de la faute originelle sur le couple, sur le mariage? Eh bien non, en tout cas pas complètement. C'est-à-dire, chose très intéressante, c'est que le mariage, même s'il se trouve blessé par la faute originelle, comme il a été institué avant la chute, eh bien, il conserve la bénédiction qui lui avait été offerte.
Ça, c'est formidable.
Et Dieu dit donc à Adam et Ève, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Ainsi, dans le mystère de la création, le Seigneur a donné de manière particulière l'homme et la femme l'un à l'autre, et ceci non seulement selon la dimension de ce premier couple humain, mais dans la perspective tout entière de l'existence du genre humain, et voire plus encore de la famille humaine, affirme Saint Jean-Paul II en développant sa théologie du corps.
Mais là où le bât blesse, c'est qu'un constat s'impose. Adam et Ève, à partir de là, ne se parlent pas. Pas le moindre dialogue entre eux. Dans la mesure où Adam a été chargé par Dieu de nommer tous les animaux en tant que leur suzerain, j'allais dire, il lui incombait à lui d'écraser la tête du serpent pour étouffer dans l'œuf son mensonge, moyennant la puissance de la parole. À l'inverse, son silence a laissé la voie libre à l'adversaire. Or, l'amour et la parole ont partie liée.
C'est la raison pour laquelle s'asseoir en vis-à-vis, visage à visage, sans téléphone portable, et se parler avec confiance est pour le couple plus qu'un devoir. C'est une nécessité vitale et un chemin de sanctification. D'ailleurs, c'est tout à fait le sens de kiddushin, c'est le mot mariage en hébreu. C'est un pluriel, kiddushin, et ce pluriel suggère qu'il existe mille et une occasions de se sanctifier mutuellement dans le couple.
Oui, et quand le dialogue se raréfie, il se sclérose et l'amour se dessèche. Rien n'est plus précieux dans le couple que de se parler. De tout, de rien, même de rien, c'est très important.
Quoi qu'il forme alors l'archétype de la relation conjugale, force est quand même de constater que ce couple primordial, Adam et Ève, eh bien il a échoué, quand même. Il garde la bénédiction, mais quand même il est largement blessé par la faute originelle. Et le texte disait en Genèse 3, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, maudit soit le sol à cause de toi. » Tel est le verdict qui va accabler Adam. Quant à Ève, qui avoue « C'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. » Dieu lui révèle qu'elle devra exercer son éminente mission de mère de tous les vivants, dans la peine et les douleurs et la soumission à son mari.
Alors, dernière précaution, puisque l'homme est devenu, dit Dieu, comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal, c'est-à-dire qu'il s'est érigé en juge du bien et du mal, sans référence à la vérité qui préexiste dans le dessein bienveillant de Dieu, eh bien, il convient de le protéger contre lui-même, ainsi que la création, en l'empêchant d'accéder à l'arbre de vie dont le fruit, en lui conférant l'immortalité, l'enfermerait dans la révolte sans possibilité de retour. C'est pourquoi Yahvé, Dieu, le renvoya, nous dit la Genèse, le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol, Adama en hébreu, d'où il avait été tiré. Et il posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie.
Alors aujourd'hui, le développement scientifique, hors de toute référence morale, souvent, vise à s'arroger le droit de mettre la main sur l'arbre de vie, mm-hmm. afin d'en cueillir les fruits. On le voit hein, dans les lois de bioéthique qui en portent la marque, en repoussant sans cesse plus loin les limites de la manipulation du vivant et de l'homme lui-même. Et donc le pire est à craindre, comme les chapitres 4 et suivants du livre de la Genèse vont nous en administrer la preuve, Jocelyne.
Eh oui, Adam et Ève donnent naissance à Caïn et Abel, l'aîné égorgeant le cadet parce qu'il en est jaloux, malgré la mise en garde de Yahvé qui lui dit « Si tu n'es pas bien disposé, le péché, Caïn, n'est-il pas à la porte une bête tapie qui te convoite ?» Pourras-tu le dominer ? C'est la question qu'il pose. La réponse est non, évidemment. Parce que de proche en proche, le mal se répand et la violence se multiplie. Si bien que Yahvé vit que la méchanceté de l'homme, Ra'at Ha'adam en hébreu, était grande sur la terre et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et s'affligea dans son cœur. La tristesse de Dieu... Vous vous rendez compte, au point de vouloir supprimer sa création.
C'est alors qu'arrive une nouvelle figure, et parmi ses contemporains, Noé fut un homme juste et parfait. Noé, nous dit le texte, marchait avec Dieu. Par égard pour lui, Dieu va épargner sa famille, 8 personnes en tout, à l'abri d'une arche qu'il a construite, avec à l'intérieur un couple de tous les animaux, à nouveau, la thématique du couple qui revient, afin de donner à l'humanité une seconde chance à l'issue de ce qu'on va appeler le déluge, c'est-à-dire il pleut au point que toute la surface de la terre est recouverte par les eaux et toute vie meurt, excepté la création protégée à l'intérieur de l'arche. Hélas, le mal était aussi du voyage, puisqu'il est, nous l'avons vu, tapis au cœur de l'homme. La preuve en est que l'humanité se multipliant au terme du déluge, il se trouva pourtant des hommes désireux de construire une tour, la tour de Babel, dont le but était de percer le ciel pour pouvoir en chasser Dieu.
Mais revenons à Adam et Ève. Comme Caïn a été répudié, enfin il est chassé, et que Abel n'est plus, Dieu leur donne un troisième fils qui s'appelle Seth. De lui va surgir un rameau de justice grâce à son fils Enoch, lequel fut, nous dit la Bible, le premier à invoquer le nom de Yahvé. C'est de ce rameau que va procéder Adam. Abraham, je veux dire, et Sarah, au bout d'un certain nombre de générations, le premier couple post-diluvien par lequel s'inaugure l'histoire du salut proprement dite. En quelque sorte, la deuxième chance offerte à Adam et Ève.
Et donc, après le coup de projecteur sur le premier couple qui était Adam et Ève, voici notre deuxième couple, Abraham et Sarah. Donc pour la tradition juive, ils ont d'ailleurs, ces deux couples, un rapport très proche, puisque Ève serait liée à Sarah, laquelle aurait reçu en naissant l'âme, tout simplement, de la première femme, Ève, afin d'en opérer la réparation, tikkun, en hébreu. Et là où Dieu avait reproché à Adam d'avoir écouté la voix de sa femme, à contrario, l'Éternel va intervenir pour enjoindre à Abraham d'écouter la voix de Sarah, Genèse 21 par exemple. C'est donc sous cet angle et avec cette clé que nous allons évoquer l'histoire du premier couple post-déluge, avec cette question au travers de ce couple de Abraham et Sarah, faut-il, Jocelyne, oui ou non, écouter la voix de sa femme ? Telle est la question.
Alors, je reprends là où nous avons laissé Noé. Parmi ses trois fils, c'est de la descendance donc de Seth que vont être issus Terah, le père d'Abraham, Nahor et Haran, les trois fils donc de Terah. Haran va engendrer Lot. Ce frère de Lot est mort tragiquement, et puis Abraham va donc recueillir l'adolescent Lot qui est resté orphelin sans toutefois l'adopter. animée par la charité proverbiale d'Abraham, autant que par le regret qu'il avait de ne pas avoir d'enfant. Parce que, nous dit la Bible, Sarah et sa femme étant stériles, elles n'avaient pas d'enfant. Et tu vois bien qu'en fait, la parole vient de redoubler, hein, pour insister, redondance qui en dit long sur le caractère absolument irrémédiable de la stérilité de Sarai.
Alors, c'est à la mort de Terah, père d'Abraham, que Dieu appelle Abraham personnellement, afin que son départ ne passe pas pour un abandon de son vieux père, lequel continuait d'espérer que son aîné reprendrait son fructueux commerce d'idole, malgré les signes contraires qu'il en avait donnés. Ainsi préparé intérieurement, Abraham était à même d'entendre la voix du Dieu unique qui lui promettait les deux choses qu'il n'avait pu obtenir jusqu'ici, une terre et un fils. Il a alors 75 ans et Sarai a 10 ans de moins, donc 65, quand il va recevoir le triple commandement « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père ».
Alors oui, tout à fait.
Quitte ton pays.
Ta parenté pour la maison et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai, je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction, par toi se béniront tous les clans de la terre. En hébreu, l'ordre n'a pas l'acception négative qu'il a en français, quitte, parce que quitte, en fait, ça suppose une rupture, une amputation, une diminution de l'être, je dirais. Au contraire, en hébreu, l'éclaira se traduit par va vers toi, et ça sonne comme une invitation à marcher vers sa vérité propre, vers son être particulier, à la recherche de son accomplissement. Mais pour cela, il convient d'abord de se délester de toutes les sécurités qui nous entravent, qu'elles soient d'ordre sociétal, c'est-à-dire ton pays, communautaire, ta parenté ou familiale, la maison de ton père.
Chose intéressante, c'est qu'on avait vu dans le premier couple que pour pouvoir s'attacher à sa femme, il fallait quitter son père et sa mère.
Et, oui.
Et ce deuxième couple nous développe, j'allais dire, quitter, ça consiste justement à marcher vers soi-même. Et qu'il peut y avoir plusieurs ruptures avec un ordre sociétal, avec un ordre communautaire, avec un ordre familial pour pouvoir créer son couple. Donc, Abraham prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tout l'avoir qu'ils avaient amassé et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils se mirent en route pour le pays de Canaan et ils y arrivèrent. Le voyage s'est passé sans encombre apparemment lorsqu'ils arrivent à Sichem, où Dieu lui apparaît à nouveau pour confirmer sa promesse. Et le texte d'ajouter « C'est à ta postérité que je donnerai ce pays. Non seulement il foule la terre qui lui est destinée, mais elle deviendra également l'héritage d'une postérité dont il n'a pas encore malheureusement le premier maillon. » On pourrait dire qu'à vue humaine, la gageure est extrême. Et que pense Sarai de tout cela, Jocelyne? Il semble que la Bible n'en dise mot.
C'est vrai, il y a un grand silence de Sarai sur tout ça. Et voici que, d'autant plus qu'une famine va frapper le pays de Canaan et décimer les troupeaux d'Abraham, hein, menaçant la survie du clan. Alors, Abraham, sans consulter Dieu, décide de descendre en Égypte, le grenier à blé de la région. En amont, il fait à Sarai cette étrange requête. Il lui dit « Vois-tu, je sais que tu es une femme de belle apparence. Quand les Égyptiens te verront, ils diront « C'est sa femme » et ils me tueront et ils te laisseront en vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur pour qu'on me traite bien à cause de toi et qu'on me laisse en vie par égard pour toi. » Il faut dire, pour sa défense, que tout se passe comme il l'avait prédit. Les officiers de Pharaon à la frontière voient que la femme était très belle. Ils l'emmènent illico au palais du maître de l'Égypte, lequel comble instantanément Abraham de tous les biens pour le dédommager d'une telle aubaine, d'un tel don.
Mais Dieu ne l'entend pas de cette oreille et il frappe Pharaon de grandes plaies, ainsi que sa maison, à propos de Sarai, la femme d'Abraham. Pressé de rendre des comptes, Abraham ne dit mot, Sarai non plus d'ailleurs, laquelle s'est prêtée au jeu pour épargner son clan et sauver son mari, consentant à un demi-mensonge, puisqu'elle est, c'est vrai, sa demi-sœur. Si on regarde par exemple Genèse 20, verset 12. Il faut dire aussi à cette époque que l'endogamie était d'un usage courant dans ces sociétés fortement claniques.
Oui, et à ce moment du récit, il convient de revenir sur la fascinante beauté de Sarai, parce que quand même, c'est une femme qui a 65 ans quand elle part. Hein, donc elle a déjà quelques années de plus quand elle se trouve en Égypte. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette beauté fascinante a partie liée avec sa stérilité. Selon le Midrash, le temps n'a pas de prise sur elle. La cause en est qu'il ne la traverse pas. Il passe, il glisse sur elle comme sur les plumes d'un canard. Les lunes se succèdent, glissant sur elle, sans ouvrir sa matrice, à son grand désespoir. Voire à sa honte, comme elle s'en plaint à son mari, elle lui dit « Vois, je te prie, Yahvé n'a pas permis que j'enfante. » Silencieux jusqu'alors, voici qu'elle fait entendre sa voix. Comme elle doit souffrir, j'allais dire, pour oser sortir de sa réserve. 10 ans déjà qu'il foule la terre de la promesse, et Sarai voit bien que Abraham est déçu lorsqu'il la regarde. C'est alors que l'idée germe dans son esprit. Puisque l'usage permettait à une esclave d'enfanter sur les genoux de sa maîtresse stérile, Sarai prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari Abraham, nous dit le chapitre 16 de la Genèse, en lui disant « Peut-être obtiendrai-je par elle des enfants ?» Et le texte de conclure « Abraham écouta la voix de Sarai ».
Ainsi s'achève notre émission sur Abraham et Sarai. Vous pouvez retrouver le contenu de cette émission dans le livre de Jocelyne Tarnot, intitulé « Les couples phares de la Bible », paru chez Salvator. Alors la chanson qui va être diffusée en fin d'émission est à réécouter pour ceux qui le souhaitent sur ma chaîne YouTube, Étienne Tarnot, ou sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Par ailleurs, nous animons des contes, des concerts bibliques, des conférences dans toute la francophonie. Si vous souhaitez nous faire venir dans votre école, collège, lycée, paroisse, groupe biblique, vous pouvez nous écrire au mail de l'émission biblepasapa@gmail.com. biblepasapa@gmail.com. Bonne semaine à toi, Jocelyne.
Bonne semaine, Étienne. Et surtout, bonne semaine à tous.
À midi, toi, Marie, tu scrutes le rouleau qui parle du jardin, du serpent et d'Ève. À midi, toi Marie, tu tiens un écheveau soie rouge carmin qui te vient d'Adam. À la croisée du temps et de l'espace, Marie, comblée de grâce, de tes lèvres j'attends le oui du fiat. La mère du Messie. Dis oui, ô Marie, et l'alliance rompue, jadis dans le jardin, refleurira en Jésus mieux. Serpent et sois vainqueur par son sang.